Bonjour Chantal.
Bonjour Violaine.
Bonjour à toutes
et à tous.
Bienvenue dans un nouvel épisode de Zone Vocale, une émission portant sur les enjeux politiques, intimes et artistiques de la voix.
Lors de rencontres avec des personnes qui ont fait de la voix le centre de leur existence.
Chanteuses, soignantes, poètes, poétesses,
compositrices, penseuses, artistes sonores,
nous proposerons un espace de partage et de réflexion sur la manière dont l'usage de la voix peut être une zone d'empowerment.
Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir Valérie Philippin.
Bonjour Valérie.
Bonjour. Bonjour Violaine. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Valérie Philippin est chanteuse, pédagogue, interprète, compositrice, improvisatrice et créatrice de nombreuses pièces de musique contemporaine et de théâtre musical. Formée au chant lyrique, Valérie Philippin s'est spécialisée dans le répertoire du XXe siècle et contemporain, explorant les liens que tisse la voix entre musique, théâtre, danse, littérature et art plastique. Elle a été directrice de Singulière Compagnie à Paris de 1995 à 2012 et a fondé l'ensemble instrumental Kiosque, salué en 2011 par le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Ses œuvres vocales et scéniques ont été distinguées, notamment par la médaille d'or de la Biennale d'art moderne d'Alexandrie, la Fondation Beaumarchais, le prix Couple La Salle. Elle a publié plusieurs ouvrages tels « La voix soliste contemporaine, repères techniques et répertoires de la musique de chambre », ainsi que « Le corps chantant » qui porte sur l'anatomie de la technique vocale fondamentale. Elle dirige depuis 2019 la compagnie Territoire de la Voix à Bordeaux et enseigne actuellement aux comédiens des écoles supérieures du TNB à Rennes et TNBA à Bordeaux.
Pour chaque émission, nous proposons à l'invité des suggestions poétiques qui incitent à un usage étendu de la voix. Aujourd'hui, Valérie, le rire.
Ah. Ah.
Alors,
bravo.
Alors, Valérie. Valérie, je la connais depuis très longtemps. On s'est rencontrés il y a une trentaine d'années, à l'époque où elle était toute timide, toute renfermée, et elle avait du mal à s'exprimer. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que moi, je l'ai vue changer d'espace. Elle a quitté le lyrique pour la musique contemporaine. Elle a commencé à interpréter des pièces les plus ardues comme seuls les compositeurs contemporains sont capables d'écrire. Et elle en sait quelque chose. Ensuite, et là, je l'attends et je suis enthousiaste de la nouvelle phase, elle est devenue compositrice. Et je pense que l'improvisation et la composition sont des choses qui, pour les femmes, ont été quelquefois interdites ou oubliées. Mais avec Valérie aujourd'hui, on a vraiment cette chance d'avoir tout ce parcours qui, moi, m'émerveille.
Merci Chantal. Ben, un parcours pour moi, c'est comme plusieurs rivières qui ont le même lit, en fait. Parce que j'ai toujours été sur plusieurs activités professionnelles et aussi plusieurs axes de recherche. Il y a eu la voix, bien sûr, le chant, parce que c'est une histoire d'enfance, c'est une histoire de famille, je dirais, puisque mes parents étaient chanteurs amateurs, choristes, et ont été une famille nombreuse, et tout le monde chantait. Donc, je suis tombée dans la polyphonie vocale très, très tôt. Et chanter, c'était extraordinaire quand j'étais enfant, parce que la vie familiale n'était pas toujours facile, mais chanter, c'était toujours facile. C'est-à-dire que c'était un espèce d'îlot et on est encore dans une thématique peut-être liquide. Dans le flux, il y avait cet îlot absolument magique où tout allait bien parce qu'on chantait. Voilà. Et quel que soit le contexte et les difficultés rencontrées, les tensions et les souffrances éventuelles. Et voilà. Et cet îlot, en fait, j'en ai fait mon métier. Un peu parce que j'ai commencé par faire d'autres études, des études d'éducatrice de jeunes enfants. Et ça, c'était génial parce que j'ai appris tout ce qui concerne justement une thématique qui a été importante pour moi, l'anatomie. La fonction dont le corps fonctionne, le développement de l'enfant sur le plan psychomoteur, ça c'est des choses qui m'ont nourrie et accompagnée toute ma vie. Et puis j'avais fait un peu d'histoire de l'art, un peu de dessin, enfin bon, je me cherchais, je ne me trouvais pas bien. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, il n'y a qu'une chose qui fonctionne pour moi, qui est évidente, c'est le chant. Et cette activité qui était à la fois très intime et en même temps très... très évidente, et puis c'était le seul endroit où j'étais facilement au monde, en fait. Parce que, effectivement, parler, comme tu l'as dit, Chantal, tu me connais bien. J'étais très renfermée, très timide, très douloureuse même. Et le chant était cet endroit où je pouvais m'exprimer à travers des musiques dans lesquelles je pouvais me glisser comme dans un vêtement ou dans un corps, presque dans un corps autre. Je n'étais plus moi, enfin je n'étais plus ce moi qui est un peu en difficulté par rapport à la vie sociale. Tout d'un coup, tout était ouvert, c'était facile et ça plaisait aux gens et les gens venaient vers moi et je pouvais aller vers les gens à travers cette pratique du chant. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans un groupe de chant, un cours de chant collectif. Et c'est devenu mon activité principale et qui s'est déployée à la fois sur l'interprétation du répertoire. Effectivement, j'avais fait des études de chant lyrique et pas très envie de devenir chanteuse d'opéra parce qu'ayant fait de la danse et du théâtre et adorant la littérature et m'étant intéressée aux arts plastiques, j'avais un goût très, très prononcé pour la création. Et pour les écritures, voilà, pour la chose en train de... Et j'avais déjà un esprit de recherche, je pense. Donc tout ce qui était déjà fermé, tout ce qui me paraissait clos dans le répertoire classique m'attirait pas trop. Et quand j'ai découvert la musique contemporaine, j'ai foncé. C'était mon endroit, quoi. C'était vraiment comme de découvrir... la porte s'ouvrait sur un paysage dans lequel j'étais sûre que j'allais pouvoir complètement me déployer. Et à côté de ça, l'écriture... qui est une histoire d'enfance aussi, parce que j'ai toujours écrit dès que j'ai su ce que c'était qu'écrire. J'écrivais des histoires et je ne les racontais pas, justement. Je n'ai pas fait le lapsus. J'écrivais des histoires pour moi, je ne les montrais à personne. Et donc, c'était l'endroit où je pouvais librement m'exprimer sans être confrontée à tout ce qu'on peut nous imposer comme cadre familial, social, l'école, etc. Là, c'était un endroit de liberté. Et à un moment donné... À l'école, j'ai eu une maîtresse extraordinaire qui nous faisait écrire. Et là, j'ai senti que waouh. Mais par contre, devenir chanteuse, c'était facile parce que socialement, c'était accepté, valorisé. Être l'artiste lyrique, travailler avec des hommes, des compositeurs qui avaient besoin de voix de femmes pour exprimer leur part de féminité, peut-être. Enfin, voilà. Donc, j'étais cette femme qui allait aider les hommes à s'exprimer. En étant leur interprète.
Et tu étais consciente à ce moment-là déjà ?
Oui, j'ai toujours su que c'était... ça m'a toujours été difficile, mais j'avais le sentiment de ne pas avoir le choix. Et à côté de ça, l'écriture, ça restait dans ma chambrette, quoi. Ça restait secret, ça restait... Voilà, difficile, très difficile à... Et quand je parle d'écriture, c'est aussi bien l'écriture poétique que la composition, en fait, parce que j'ai toujours... pour moi, la chose a toujours été associée. La langue doit sonner, la langue doit chanter. Même quand on est dans la parole, ça doit chanter. Donc, quel est cet endroit où la langue chante ? C'était ça mon objet de recherche, mais c'est resté longtemps à la marge.
Tu peux peut-être raconter l'histoire étonnante du jour où tu as voulu composer et la réaction d'une certaine personne dont nous tairons le nom.
Non, j'ai voulu écrire. En fait, j'écrivais de la poésie et j'étais passionnée de poésie sonore, de poésie à voix haute. Et effectivement, j'ai travaillé à un moment donné avec un poète. J'étais son interprète. Enfin, on travaillait sur un projet qu'il avait écrit et je lui ai soumis mes textes. Et il mettait du temps à répondre, donc j'ai dû aller prendre mon courage à deux mains pour lui dire « Est-ce que tu as lu mes textes? Est-ce que tu peux me dire quelque chose ?» Et il y a eu un temps de silence et il m'a dit « Pourquoi tu veux écrire puisque tu chantes déjà ?» Voilà. Et là, ça a été vraiment une grosse claque dans la figure parce qu'il était en train de me dire, c'est comme s'il m'avait dit, enfin, parce que pour moi, être chanteuse, j'avais déjà ce sentiment que c'était une assignation en tant que femme. Et rester dans le rôle d'interprète, c'était une assignation en tant que femme. Et il était en train de me dire, reste à ta place de femme, en quelque sorte. Et de toute façon, à ce moment-là, il n'y avait pas, autour de moi, il n'y avait pas de compositrice ou très très peu. Et des poétesses, il y en avait un peu, mais pas beaucoup non plus.
On n'en parlait pas, surtout.
Et on en parlait peu, voilà. Mais je me suis révoltée, j'ai continué à écrire. D'abord toute seule, et non, pour moi, et voilà. Mais il y a eu une chose géniale, c'est que j'enseignais, et que j'ai eu le courage au moins d'insérer mes textes dans le corpus de choses, de pièces contemporaines que je donnais à mes élèves. Voilà. Et je le mettais en me disant, je me sentais totalement pas légitime, hein, mais il y a une partie de moi qui s'est toujours révoltée, qui a toujours dit, tu y vas, mais tu y vas, quoi, faut y aller. Même si j'avais une peur terrible et l'impression qu'on allait me... Enfin, la peur, elle est difficile à définir, mais c'est vraiment une peur d'être détruite, quoi. En plus, ça va être très fort de le dire, mais je le dis parce que c'est une vraie sensation. Dans le fait de s'affirmer en tant qu'autrice, en tant que compositrice, chez moi, très longtemps, plus maintenant, heureusement, c'est pour ça que j'arrive à écrire, à composer, à faire valoir mon travail. Mais ça s'associe à une peur d'être annulée, ravagée, violée, détruite par quelque chose de... C'est pas les hommes en général, c'est la société, c'est le climat, c'est, je sais pas comment dire, c'était interdit au point que j'allais être punie, quoi. Mais gravement. Et c'était une terreur. Et en moi, il y avait une personne, là, quelque part, à qui je dois beaucoup, qui a tout le temps dit « Non, ça peut pas être comme ça. » Donc, insiste, insiste, insiste. Et là où j'ai insisté, ben, c'est dans le cadre pédagogique, où pendant très longtemps, je proposais mes textes, et à ma grande joie, parce que j'ai toujours procédé de la même façon, je propose un corpus de textes que je présente, et après, je dis à mes étudiants, vous choisissez, vous montez ce que vous voulez. Voilà. Parce que j'aime bien que ça parte de leur envie. Donc, je montrais les textes, j'en chantais des bouts, je montrais où je faisais écouter des sons et tout ça, puis ils choisissaient. Et mes textes étaient toujours choisis en nombre et montés avec beaucoup de bonheur. Et du coup, on les travaillait. Et je voyais bien que les pièces, elles fonctionnaient, quoi, que ça marchait, que ça existait, que c'était chouette, que c'était bien, que les gens étaient contents. Mais de là à arriver à les produire... à les faire diffuser, enfin voilà, à les défendre sur un plan professionnel, ça a pris énormément de temps.
Et quel a été le déclic, du coup, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as réussi, t'as eu une opportunité peut-être ou...
Le déclic, je le dois mais à mon ami Frédéric Borsarello Trezalé. Parce que j'ai eu des commandes. Par exemple, il m'est arrivé une autre aventure aussi pas très drôle. J'ai eu une commande de monter un spectacle avec des enfants. Et j'ai écrit le spectacle, j'en ai écrit la musique. Donc j'ai écrit le texte, j'ai écrit la musique, je l'ai mis en scène. On l'a joué dans un grand théâtre national. Et donc c'était une commande d'un producteur. Et dans toute la com, j'étais artiste lyrique. Et en plus, j'avais accepté des conditions que je n'accepterai plus aujourd'hui. Mais j'étais payée en tant qu'animatrice, en quelque sorte. Enfin, j'étais payée pour monter un spectacle avec des enfants. Il n'y avait pas d'argent pour écrire, ni pour composer, ni pour mettre en scène. Et je chantais avec les enfants sur le plateau. Et mon nom apparaissait associé au fait que j'étais artiste lyrique, ni autrice, ni compositrice. Voilà. Et ça, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et à un moment donné, y a eu deux choses. Il y a eu MeToo et tous les discours qui ont eu autour... plus le fait qu'on se mette à valoriser les compositrices, qu'il y ait vraiment des questionnements sur le fait pour quelles raisons on a invisibilisé les compositrices, pourquoi le mot d'autrice a disparu avec plein d'autres mots qui ont été éliminés de l'encyclopédie voilà, au XVIIe siècle, grâce à notre bon...
Académie française.
Voilà, notre bonne Académie française et notre bon cardinal Richelieu. Et donc très tôt, moi, dès que j'ai pu connaître ces choses-là, je me suis dit autrice, à l'époque on disait auteureux, etc. Bon, ça date d'il y a une dizaine d'années, hein. Et puis, MeToo m'a donné énormément de force parce que, comme beaucoup de femmes, j'ai subi des attouchements, j'ai subi des choses jeunes qui ont contribué au malaise que j'avais en essayant de devenir une jeune femme dans un cadre social, enfin, à m'insérer socialement. Même gagner de l'argent, c'était difficile. C'est vrai, ça a été... Enfin, voilà, devenir quelqu'un actif socialement, indépendant, autonome, c'était dur, donc bon... Et donc, MeToo a été énorme pour moi, comme sans doute beaucoup, beaucoup de femmes. Et puis ensuite, Frédéric Borsarello Trezalé, qui est une chanteuse et très, très bonne enseignante aussi, m'a dit, mon amie Noémie Legendre, on a envie de monter un duo et on voudrait que tu écrives pour nous un spectacle. Et je lui ai dit, OK, mais on fait un trio et je chante avec vous et on fait ça ensemble. Et on a bossé presque 2 ans. Sur mes pièces et on testait tout. Elles m'ont vraiment aidée sur la conception. Enfin, c'était un travail de recherche. On a fait ça sans argent, de recherche, de création. On a testé plein de choses et puis au bout de 2 ans, on a sorti un spectacle. Et à partir de là, ça m'a donné énormément de confiance. J'ai vendu ce spectacle. Puis là, j'avais le courage quoi, de proposer. Puis j'étais plus toute seule. Quoi. Le fait d'être. Voilà, et là, il y a eu plein de résidences, plein de commandes. On a fini par éditer ces partitions chez Symétrie. Et,
tu peux et peut-être voilà. donner le nom du trio.
Alors, le trio s'appelle Déclic.
Et c'est les un beau nom par rapport à ce qu'on dit.
Ah bah oui. Incroyable.
On a longtemps cherché, mais oui, Déclic s'est imposé. Et puis, les partitions éditées s'appellent Kit Music. C'est 3 recueils de partitions qui sont toutes ouvertes. Parce que j'ai aussi un rapport très fort à l'improvisation. Donc, ce sont des pièces qui sont à recréer avec des aspects d'improvisation.
Peut-être que, du coup, on peut écouter une pièce de Déclic qui s'appelle « Baragouineuse ». Qui a été créé en 2022 suite à une longue résidence donc au Conservatoire de Bordeaux. Donc je le redis, Déclic avec Frédéric Borsarello Trezalé, Noémie Legendre et Valérie Philippin.
Moi, j'avais envie de revenir sur le passage entre la formation lyrique, qui était quand même le rêve de beaucoup de jeunes filles, n'est-ce pas, de chanter, être chanteuse d'opéra, ça fait quand même partie des rêves. Et toi, qui es passée, grâce au Centre Acanthe, de l'autre côté, c'est-à-dire vers une initiation à ce que c'est la musique contemporaine. Et donc, tu as rencontré Apergis, qui, était dans les enseignants du Centre Acanthe. Et là, peut-être tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a attiré et qui t'a fait partir complètement du lyrique pour arriver sur la parole, le rythme et toute la création contemporaine.
Ben, ça a été vraiment une rencontre extraordinaire avec la musique contemporaine au Centre à Cantes où on se retrouvait, je ne sais pas, on était une vingtaine de jeunes. Et dans les enseignants, il y avait des chorégraphes, il y a des metteurs en scène, des compositeurs. Dans les participants, il y a des instrumentistes, des chanteurs, des gens qui jouaient du rock. C'était une espèce de monde très ouvert, et un rapport aussi aux arts plastiques, justement. Donc ça a été tout d'un coup la quintessence de tout ce qui m'intéressait. Et à ce moment-là, j'avais déjà 27 ans, donc j'avais fait une formation assez complète en lyrique. Et pas du tout, assez malheureuse, parce que j'avais pas du tout envie de chanter l'opéra. Bon, voilà, parce que j'avais pas envie d'être dans un monde du passé. Je voulais vraiment vivre au temps présent. Et la rencontre avec Georges, mais ça a été une grande chance, un vrai coup de foudre. Et puis, c'était le théâtre musical, c'est-à-dire cette espèce d'endroit très complet où tout se rejoint. Et puis aussi un rapport à la parole. Lui, il se situait vraiment dans la lignée Schwitters, dadaïsme, futurisme dadaïsme, tout ce rapport à la langue qu'on déconstruit, qu'on reconstruit, on utilise les bruits, l'usage de la parole au quotidien, passer du parler au chanter.
Et puis une présence... Dans une ville de banlieue, quand même, ça, c'était assez original, le travail d'Apergis. C'était
à Bagnolet, oui. Oui.
Donc là aussi, il y avait une place qui n'était pas la même que ces compositeurs en chambre.
Oui, oui, tout à fait. Il y avait un rapport au public beaucoup plus concret, beaucoup plus direct. Et puis cet aspect expérimentation, parce que quand il montait ses spectacles, quand je l'ai rencontré, il était en train de monter Énumération. Ils ont travaillé un an en atelier, comme ça, avant de sortir le spectacle. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus l'argent, il n'y a plus les moyens de faire ça. Ni la capacité, parce que tout le monde court après les cachets, d'avoir les gens à disposition sur un temps aussi long. Donc voilà, c'était cet endroit-là. Et puis il a écrit une pièce qui s'appelait Tingle Tangle. En trio avec cymbalum et accordéon, donc une espèce de mélange instrumental complètement dingue. Et là, c'est pareil, il nous a écrit la pièce, on a mis un an à la créer. Et ensuite, un peu plus tard, il a écrit pour moi les Monomanies. Alors, ça faisait partie de sa galerie de portraits. Il a comme ça écrit tout un tas de pièces en toute petite forme ou en solo qui sont un peu, voilà, qui sont dédicacées à la personne à qui il les écrit et qu'il considère comme une sorte de portrait parce qu'il part de la personne elle-même. Et ça m'avait surpris quand il m'avait donné ces partitions parce qu'il invente toujours son propre langage, il écrit la musique et souvent il écrit le texte après, c'est-à-dire le texte vient s'insérer dans la musique. Et c'est un texte qui est une combinaison phonétique, souvent sans sens direct ou avec quelques mots comme ça qui font sens, mais qui sont comme qui se glissent dans une matière de syllabes, de phonèmes. Tandis que là, il a pris des poèmes qui font sens, des poèmes du Moyen-Âge, et notamment un poème de Louise Labbé que j'adore. Je vis, je meurs, je brûle et me noie. Et voilà, et c'est cette mélodie-là que j'avais envie de partager avec vous.
Eh bien, super. Alors, on va écouter donc Monomanie 3, Georges Apergis pour la voix et pour Valérie Philippin en entier d'ailleurs. Pas que sa voix.
Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Je vis, je meurs, je brûle et me noie. J'ai chaud extrême en adhérant froid dur la vie, mais est trop mal et trop dur. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie est trop mal et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout en un coup, je ris et je la moi. Et au plaisir, ma grief tourment, j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je me dois ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine et être haut de mon désir, alors il me remet premier malheur.
Ben, eh bien, moi, je voulais revenir, Valérie, sur tes, tes compositions à toi. Mmh. Et la question de la langue et du texte est centrale. Tu parles d'ailleurs de poésie sonore souvent, et puis tout à l'heure tu parlais du fait que tu écrivais en fait par l'oralité aussi. Enfin, c'était une espèce de boucle chez toi. Il n'y avait pas forcément de séparation entre l'écriture et l'écriture sonore. Enfin, tout ça a l'air d'être assez poreux, fluide. Et comment justement tu composes que dans ta pièce baragouineuse, on entend des mots. Est-ce que tu peux revenir sur cette pièce, un peu raconter voilà, la manière dont tu l'as pensée dans ce rapport au texte?
J'ai exploré plein de modes d'écriture. C'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à la poésie sonore et j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance en tant qu'interprète de rentrer profondément dans certaines écritures comme celle d'Olivier Cadio ou de Christophe Tarkos, voilà, qui sont vraiment dans l'idée d'écrire une langue pour la voix haute, en développant au maximum la musicalité et puis une forme de dramaturgie aussi du son, du rapport au public, du rapport à l'autre. Alors, j'explore plusieurs types d'écriture. Ça peut être des listes. C'est le cas dans Baragouineuse. En fait, j'ai cherché. C'est très facile maintenant avec Internet. On dit voilà, je voudrais tous les mots qui finissent en euse. Ok. Alors, on a des listes qui n'en finissent pas, et j'ai pris tous les mots en euse, ceux qui ont quatre syllabes. Voilà, et j'ai construit cette pièce comme ça. Donc des listes, effectivement, que je trouve dans le dictionnaire. J'aime beaucoup partir de textes scientifiques aussi. Et après, j'utilise des techniques qui sont finalement assez classiques, de permutation, de cut-up, de combinaison, de faire se rencontrer deux textes différents qui vont se mixer, se confronter, du coup amener des polysémies. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être sur une unité de sens. Et c'est souvent dans la perte de la continuité de l'unité, d'une unité de sens, qu'on se met à écouter la musique et pas les paroles. En fait, quand on écoute quelqu'un parler, on écoute ce qu'il dit. Et on n'est pas conscient de la musique. Dès qu'on tord un peu le message, qu'on le masque ou qu'on le... Voilà. On va se mettre immédiatement à écouter la musique. Et c'est ce rapport musique-parole qui m'intéresse, parce que c'est quand même intéressant de passer un message. Quel est le degré de message? Quel est le degré de musique, quoi? C'est le vieux débat entre parole et musique qu'on a eu dans l'opéra au XVIIe siècle, là, qui est retranscrit avec des écritures plus contemporaines. Voilà, donc j'explore toutes ces écritures-là. Parfois le texte vient avant, parfois le texte vient après. Parfois le texte est lui-même la matière à partir de laquelle je vais improviser, par exemple. Et dans la pièce baragouineuse dont tu parles, le texte est écrit, il y a une rythmique imposée. Donc on est trois, c'est avec des clics qu'on a créé cette pièce, je l'ai écrite pour nous trois. On lit chacune une liste, en décalé avec un système de canon, avec une rythmique identique, mais décalée d'un temps. Et après, la mélodie, on l'improvise. Et l'idée, c'est d'improviser une mélodie atonale. Donc, en fait, c'est un peu, la parole est atonale. Si je parle et que je fais ressortir un peu, voilà, je peux aller vers le chant, mais ce ne sera jamais dans un système. Enfin, expliquer ce que c'est que le système tonal, mais bref, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais en tout cas, voilà, c'est une organisation libre et non cadrée des hauteurs qui crée une mélodie très particulière. Et ça, c'est mon langage. C'est vraiment complètement mon langage.
Donc il y a quelque chose qui est plus de l'ordre presque de la trame ou de la partition ouverte. Il y a quelque chose qui reste vraiment de la sensation sur le moment, plutôt qu'une écriture verrouillée qui permet pas à l'interprète. Enfin, je sais pas si d'ailleurs, est-ce que vous êtes interprète? C'est aussi, ce serait intéressant de se demander, le statut de est-ce qu'on est interprète quand on est improvisateur? Là, tu joues vraiment sur des porosités entre l'improvisation, l'interprétariat, l'écriture.
Tout à fait.
Et dans la manière dont tu penses les choses, j'imagine qu'elles te viennent autant par la bouche que par la main. Enfin, comment ça s'est...
Je dirais... la main, je ne sais pas, parce qu'en fait, je n'écris jamais directement. J'improvise tout. En fait, je compose avec ma voix. Mmh. Et après, je la transpose parce qu'avec ma voix est une voix de plutôt de mezzo-soprane, soprano-mezzo-soprane. Si je veux que ça aille pour une voix d'homme, je vais transposer. Mais j'improvise, en fait. Tout part d'improvisation qu'ensuite, je vais retranscrire et réécrire, réaménager. Et j'ai besoin de partir de l'improvisation parce que d'abord, je n'écrirai jamais assez vite. J'ai pas cette... je peux écrire... La poésie, je l'écris à la main et manuscrit ou sur l'ordinateur. Ça dépend du contexte. Pour ce qui est de la musique, je n'écris pas la musique assez vite. Donc, je transcris. Et ensuite, il y a, avec la parole, je peux me trouver en situation d'improviser en écrivant de la poésie. Pour être en situation d'improviser en chantant, enfin, musicalement, je veux dire, il faut que je passe par la voix et par l'expérience. En plus, j'ai besoin du corps, parce que j'improvise en bougeant, j'ai besoin des gestes, j'ai besoin d'être en contact avec l'air, avec l'espace, avec la lumière, enfin voilà, j'ai besoin d'être autant présent, dans un état de corps, dans un état de sensation. Je pars de ça, j'improvise, et puis ensuite, je retranscris. Là, pour Baragouineuse, cette pièce dont on parle, c'est un petit peu différent, ça part de la liste, qui est vraiment un travail, c'est même pas un travail d'écriture en fait, c'est de la compilation. Et ensuite, le travail, comme tu le dis, va être un travail de co-création. On est improvisatrice sur un support, mais un support... En plus, c'est pour moi, pour ça que c'était très important d'être avec elle. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on a inventé ensemble, et elles m'ont apporté, autant que je leur ai apporté, une façon d'être en musique dans cet espace qui est ouvert. Voilà.
Et après, je m'y connais pas vraiment en musique contemporaine, mais cette manière de faire, a priori, on peut penser qu'elle... Enfin, je ne sais pas, tu vas sans doute pouvoir nous répondre. Chez Apergis, par exemple, apparemment, lui, il passe pas par sa voix. Il compose directement et j'ai l'impression que... parce que on a accueilli ici Élise Dabrowski, mm-hmm. qui est aussi passe par le corps, l'expérience pour écrire. Pour ma part, c'est aussi le procédé que j'utilise. Et je me demande, finalement, ces modes de composition, ils existent sans doute depuis toujours. Et pour autant, il y a un problème presque, on se pose la question de la légitimité. Est-ce que, enfin, en tout cas chez Élise, ou peut-être tu te l'es posé, moi j'ai mis énormément de temps à comprendre que j'écrivais. Mm-hmm. Mais parce qu'on a cette espèce de masse ou de représentation de ce que c'est la composition musicale. Et le problème qu'on a aussi, c'est que les bourses qu'on peut obtenir, et d'ailleurs tu soulevais d'ailleurs la question tout à l'heure, les bourses qu'on peut obtenir pour de l'écriture, elles passent par des systèmes de légitimisation avec des partitions, avec justement des manières de faire où j'ai l'impression qu'on ne se retrouve pas forcément dedans. Et je demande peut-être, est-ce qu'on appellerait ça un mode de composition patriarcale et moderne, ou est-ce que c'est trop osé de dire ça? Enfin, tu vois, pourquoi finalement, dans les invités qu'on a ici, c'est principalement des femmes ou des femmes cisgenres. Pourquoi il y a ce rapport au corps, à l'expérience, comme si on retrouvait quelque chose qu'elle a depuis toujours, mais qui a été comme effacé ou pas mis en avant?
Quelque chose d'organique.
Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu en penses?
Il y a plusieurs choses dans ta question. Il y a un aspect historique, parce qu'effectivement, au cours du 19e siècle, on a, en même temps que les conservatoires se développaient, donc l'enseignement de l'écriture de la musique, dans ses aspects théoriques, etc., plus le développement de l'orchestre, donc écrire devenait de plus en plus complexe parce qu'il fallait écrire pour des orchestres symphoniques, etc. Donc ça devenait vraiment un art en soi très complexe. Dans le même temps, on a évincé les femmes, on a éjecté les femmes du conservatoire. Plus ça se développait, moins il y avait de femmes. Et à un moment donné, il n'y a plus eu de femmes du tout, il n'y avait plus que des compositeurs. Donc il y a eu effectivement une prise de pouvoir des hommes sur les femmes par rapport au fait, dans un développement d'une écriture qui était de plus en plus complexe. Et à un moment donné, dans le courant de la première moitié du XXe siècle, si on ne savait pas écrire une symphonie, on n'était pas considéré comme un compositeur. Et les femmes, c'est assez marrant, j'ai lu un témoignage, je crois que c'est dans le livre sur les compositrices qui a été édité par le CDMC il y a quelques années. Dans l'introduction, c'est expliqué que les femmes ont investi du coup énormément la musique concrète et la musique électronique. Il y a eu beaucoup de femmes en musique électronique, parce que justement ça ne passait pas par l'écriture, ça passait par l'écoute. Et puis le matériel, couper des bandes, les coller, etc., aller enregistrer, et ça passait par le corps. C'est assez drôle. Et les hommes ont développé pendant très 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 longtemps une écriture à la table qui totalement...
En dehors du corps.
En dehors du corps. Après, Apergis, c'est très particulier. Moi, j'ai énormément aimé travailler avec lui. Parce que d'abord, je ne crois pas me tromper en disant que le texte, il le travaille à la voix. Mmh. Voilà, toutes ces matières textuelles, il les travaille à la voix. Et ensuite, il travaille énormément avec les interprètes. Ça ne fait pas qu'écrire à la table. Il fait aussi tout un temps. C'est ce que Luciano Berio faisait aussi. C'est pour ça aussi que j'adore la musique de Berio. C'est une musique d'expérience, de recherche partagée avec les interprètes et quasiment de co-création. Il a même été dit à un moment donné, bah, la sequenza 3 qu'il a dédiée à Cathy Berberian, on pourrait c'est presque d'elle. Dire que... Pas, non, c'est pas d'elle, mais ça pourrait être, on pourrait dire que c'est une co-composition. Bon, mm-hmm. C'est une question ouverte, mais c'est important qu'on se pose ces questions-là, en fait.
Bah oui, parce que je crois qu'elle nous crée des... Enfin, ce que tu parlais de toutes les... de ton surmoi, ou en tout cas de la manière dont tu avais intégré en toi la peur et le rejet, et la manière dont tu t'étais mis des barrières de part et d'autre. Il a fallu attendre longtemps. Donc, du coup, c'est comment on peut débloquer, en fait, ces choses-là et reposer un point de vue sur des modes d'écriture, en fait, qui sont pas mis en... Enfin, c'est comme si c'était hiérarchisé, quoi. Enfin, peut-être c'est une idée que je m'en fais, mais c'est important, je pense, en tant que minorité de genre, on se pose ces questions-là. Ouais,
Après, il y a une chose très intéressante aussi, ça fait quand même, je dirais peut-être une vingtaine d'années, qu'on peut déposer une œuvre à la SACEM en tant que compositeur, et l'œuvre étant déposée par le son et pas par la partition. Et donc, moi, j'ai fait plusieurs émissions avec Anne Montaron, par exemple, l'émission à l'improviste. Je le dépose à la SACEM. En tant que compositrice, je dépose le son et c'est considéré comme une composition. Tu vois ?
Mais pour, là, t'inscrire pour t'inscrire à la SACEM, il faut déjà que tu sois reconnue comme compositrice avant de pouvoir envoyer
ces... Moi, ça fait très très longtemps que j'y suis, donc je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, à vrai dire. Ouais, ça, je ne sais pas. Mm. Est-ce qu'il faut toujours... Avant, il fallait aller en loge et puis faire une composition écrite pour
Oui, donc ça a quand même évolué.
Ce que je n'ai pas fait, moi, parce qu'il y avait une exception quand on avait écrit une musique de film. J'ai co-composé une musique de film avec un ami qui, lui, écrivait. On a travaillé ensemble à partir d'un premier... Voilà, c'était il y a très longtemps. Et en fait, j'ai été de fait sociétaire de la SACEM grâce à ça. Ça a été une chance incroyable, un concours de circonstances, quoi. Merci Emmanuel Mertens, qui m'a permis d'entrer avec lui à la SACEM dans les années 90, ouais.
Eh bien, on va peut-être écouter une composition qui peut-être est déjà à la SACEM, qui s'appelle Couloir.
Hey!
Alors, on vient d'écouter Couloir. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que c'est Couloir ?
Alors, Couloir, comme Baragouineuse, d'ailleurs, qu'on a écouté tout à l'heure, ça fait partie de ce cycle Kit Musique qui donc explore différentes façons de faire musique à partir de propositions ouvertes. Et là, l'ouverture, elle est dans le fait que c'est une monodie, donc c'est une pièce pour une voix, mais qui peut se chanter en canon. Mais on peut aussi couper des fragments et les combiner entre eux. Donc en faire une recombinaison sur le mode cut-up, en fait. Et j'ai été en résidence à l'IRCAM toute l'année dernière avec Mikhaïl Malt, qui est chercheur, qui est dans le département recherche et qui est aussi compositeur et qui travaille avec le logiciel d'improvisation Somax. Donc c'est de l'intelligence artificielle. Et on enregistre les sons et le logiciel, lui, va recomposer, en fait. Et ça m'a beaucoup intéressée de faire ça parce que j'ai plein de versions de cette pièce avec des chœurs. Et ça m'intéresse parce qu'avec les chœurs, on va faire des fragments de façon assez, assez intuitive, en respectant les phrasés. Et Somax, lui, coupe à des endroits qui ne sont pas forcément intuitifs. Maintenant, je vais utiliser ça pour le faire écouter aux chœurs qui vont rechanter la pièce comme un possible modèle avec d'autres façons de rentrer dans l'écriture, en fait. Tu vois, de faire des fragments plus courts ou de couper au milieu d'un mot. D'un mot, ce n'est pas vraiment des mots, mais parce que le texte, c'est une langue imaginaire, en fait, c'est de la phonétique.
C'est très intéressant sur justement aussi la porosité avec l'outil numérique qu'on utilise beaucoup pour composer nous-mêmes des pièces sonores, peut-être par collage ou des choses comme ça. Puis tu fais recours à l'intelligence artificielle et voir aussi cet aspect cyborg un peu de la composition, c'est très intéressant à ce niveau-là aussi.
Et c'était intéressant pour moi ce partenariat parce que c'est pas du tout je n'utilise pas du tout ce type d'outils et ça m'attire pas plus de les utiliser, mais le partenariat avec quelqu'un qui les utilise et voir comment ces procédés d'écriture, parce que finalement au début ça m'a beaucoup déroutée parce que Somax fait ce que je fais. On lui donnait des textes, puis le sujet de la recherche c'était de travailler sur la recomposition de la parole, donc du texte parlé. Et je me sentais un peu échec et mat parce qu'en fait, qu'est-ce que je fais si lui fait mon travail, en fait?
Ouais. Tu vois, bah justement, après, tu le retraduis finalement puisque tu vas le redonner à interpréter un chœur. Donc, il y a là encore un retournement. Mm-hmm. C'est intéressant. Lui aussi, Somax, c'est un peu un couloir. Enfin, en tout cas, une zone de transition, quoi.
Tout à fait, merci. C'est une belle image.
Et moi, je voulais revenir sur notre rencontre parce que Chantal, vous êtes connues comment d'ailleurs, Chantal et Valérie, ce que vous nous avez pas raconté?
Eh bien, en fait, on s'est rencontrées dans un groupe de 5 élèves, je me rappelle, dans les studios qui sont situés au-dessus de la salle Gaveau, avec François Combeau, qui était un prof à l'époque très, très connu. Et j'ai vu Valérie dans cette... Moi, j'étais à mes débuts en chant, Toi, tu étais au début de ta carrière. Moi, j'étais plutôt... j'étais déjà une professionnelle, mais pas dans le domaine du chant. Mais ça a été pour moi le grand moment d'ouverture, je pense, psychique grâce au chant. Et j'ai aussi connu Violaine. Et je suis émue aujourd'hui d'avoir devant moi Violaine et Valérie. Parce que c'est grâce à Valérie que j'ai connu Violaine. Quand je lui avais demandé, parce qu'on préparait un spectacle dans un projet de création partagé avec des habitants, et j'avais demandé à Valérie, mais qui aujourd'hui fait des choses intéressantes en voix contemporaine? Et elle m'a dit, c'est Violaine Lochu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Violaine et qu'on est devenus amis. Voilà. Donc là, j'ai un moment historique, j'ai les deux devant moi.
Et nous aussi, on tatoue avec nous.
Ben oui. Quelle chance.
Et oui, ouais.
Et Chantal a beaucoup compté parce que cette compagnie, singulière compagnie avec laquelle j'ai beaucoup cherché, beaucoup développé de projets, de
ça
création.
S'appelait Singulière Compagnie, la voix et les arts de la scène.
Voilà, on l'a créé ensemble et voilà, on a travaillé ensemble pendant une vingtaine d'années. En dehors de notre longue relation d'amitié. Et c'était génial de travailler avec elle parce que Chantal est très... ramène toujours les choses sur le terrain, du public, de la fonction sociale, de la place de l'art. Et pour moi, c'était intéressant d'avoir sans cesse ce dialogue sur pourquoi est-ce qu'on fait ça et à qui ça sert et vers qui ça va, quoi. Cette question de l'autre, du destinataire ou du partenaire, elle est essentielle. Et voilà, et ça fait 40 ans qu'on réfléchit là-dessus et qu'on ne trouve pas de réponse claire.
Chantal est partout, mais souvent invisible. En tout cas, au premier abord, mais elle est partout. Non, mais c'est vrai, ça, t'as un rôle hyper important pour pas mal d'artistes, en réalité. Ouais, toujours dans la modestie.
Je suis une femme et j'ai une femme de ma génération, je pense, a plus de mal à se mettre en valeur. Et heureusement, il y a la nouvelle génération qui va changer ça.
Qui est en train d'essayer.
Ouais. Arrêter de rendre visibles les hommes pour se rendre visible soi.
Et oui, donc je voulais revenir sur notre rencontre parce que j'ai d'abord en effet connu Valérie avant Chantal. Et Valérie, donc moi c'est un ami qui s'appelle Pierre Ricardi qui m'avait parlé de ton travail. Je sortais à l'époque des Beaux-Arts de Cergy, j'étais assez paumée à cette époque-là. Et tu organisais à ce moment-là un stage d'improvisation. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ensuite, suite à ce stage d'improvisation, tu as accepté de me donner quelques cours particuliers. Et c'était une rencontre très importante pour moi parce que ça arrivait, voilà, comme je le disais, à un moment donné où je me cherchais en tant qu'artiste. Et à la fois parce que lors du stage d'improvisation, j'ai compris à ce moment-là que ce que je faisais dans ma chambre depuis un moment, depuis très longtemps même, de manière autodidacte, très personnelle et secrète, en fait, ça s'appelait de l'improvisation. Et en fait que par ta rencontre et la rencontre aussi d'autres musiciens et musiciennes, je me suis rendu compte que je m'inscrivais aussi peut-être dans quelque chose qui s'appelle la musique improvisée, bien que je ne sois pas que là-dedans, mais en tout cas il y avait des alliances envisageables de ce côté-là, donc se sentir aussi moins isolé. Et puis surtout, à ce moment-là, tu as eu un rôle, je dirais... où tu m'as donné vraiment confiance en moi et que ton oreille qui se pose sur ma voix me donne une légitimité à y croire et donc à commencer à bâtir et à faire des performances. Donc je ne cesserai jamais de te remercier. Mais du coup, je voulais revenir sur cette notion de transmission parce qu'on l'a compris aussi avec ce que tu disais auparavant. Que c'est important, que c'est très présent dans ton parcours. Et j'avais plusieurs questions sur la transmission. La première, c'est souvent on fait une distinction entre transmission et création, et même je dirais il y a presque une hiérarchisation. La transmission serait peut-être en dessous. D'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup de métiers éducatifs sont réservés aussi au corps féminin quand même. Et puis il y aurait la création qui serait au-dessus et qui aurait comme s'il n'y avait pas de lien entre les deux dans une représentation un peu manichéenne qu'on pourrait s'en faire. Et on a commencé à l'entendre tout à l'heure, tu parlais des zones de porosité, en fait, qu'il y a entre transmission et création chez toi. Et je pense que c'est le cas chez beaucoup de compositeuristes. Donc voilà, revenir là-dessus et comment l'un nourrit l'autre et comment c'est en permanence dans un dialogue, en fait, bien plus que dans une séparation. Et la seconde chose, c'est aussi le lien entre la transmission et le care. Dans le sens où lorsque donc j'ai pu avoir moi des cours individuels avec toi et aussi des cours en groupe, et très clairement tu as quelque chose de qui vient comme ça poser déjà une écoute active et bienveillante sur les voix, donc déjà on est écouté, hein, c'est déjà beaucoup, et puis ensuite tu vas nous guider sur un parcours sur mesure vraiment sur nos voix. Dans un parcours un peu de maïeutique, d'accouchement des voix. Évidemment, pour chaque individu, c'est différent. Donc, c'est vraiment une mise en résonance et vraiment une écoute que tu as qui est très précieuse et qui est très délicate, qui t'est propre aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Tu es quand même reconnue, il faut le dire, comme une des plus grandes pédagogues de la voix en France. Non, mais il faut le dire quand même.
Oui, moi,
c'est le lieu pour le dire. Ouais, et donc, je voulais te poser cette question aussi sur. C'est la seconde question. Sur l'aspect en fait politique aussi de cette démarche-là, puisque d'un point de vue féministe, on dirait que tu agis à un niveau micropolitique, enfin dans une zone peut-être d'intimité, mais où tu agis sur l'autre, sur la société, peut-être à une petite échelle, mais où il y a vraiment un impact qui, enfin, je trouve qu'on peut parler de politique, quoi, aussi à cet endroit-là. Donc voilà un peu mes deux questions qui sont très ouvertes et très larges.
Oui, 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 et qui s'articulent, en fait. Ben, en fait, pour la première question, j'ai toujours eu conscience, même si c'est pas comme ça que j'ai trouvé ma place, enfin, que j'ai mis du temps à trouver ma place en tant que telle dans la société et que c'est pas comme ça qu'on m'a formée, j'ai toujours eu conscience d'être une artiste musicienne. Et pas une musicienne tout court, et surtout pas une chanteuse tout court. Et j'ai mis longtemps à voir comment articuler tout ça et à le faire valoir, enfin à me présenter telle quelle. Donc il y a mon chemin personnel où ça a été long et difficile. Par contre, dans l'enseignement, pour moi, c'était clair que j'avais en face de moi, je formais des chanteurs, des profs de chant, j'ai formé des marionnettistes, j'ai formé des comédiens. Là, je suis encore dans la formation des comédiens, de nouveau beaucoup, et j'adore ça. Je forme des artistes pour qui la musique est un des langages possibles. Et qu'est-ce que ça veut dire être un artiste? Je ne sais pas bien, mais en tout cas, c'est être une personne entière qui est tournée vers la recherche et la création. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis pas en position de transmettre un savoir tout fait qui va se plaquer sur la personne. Je n'ai pas d'idée de ce que pourrait être sa voix si elle était belle, harmonieuse, etc. Ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de voir comment. Bon, tu parles de maïotique, évidemment. Le mot me parle. Il est très juste. C'est-à-dire de révéler en l'autre, de faire naître en l'autre sa propre personnalité artistique. C'est pas du tout. On parle de musique essentiellement, hein, parce que c'est là où on se centre artistiquement. L'enseignement de la musique est encore très très formaté. Voilà, on a une certaine idée du beau son, une certaine idée d'une belle voix, une certaine idée de. Et moi, je me suis située à un autre endroit par rapport à ça. Donc effectivement, ça réoriente complètement la pédagogie, ça réoriente complètement le rapport au projet. Pour moi, le projet d'une pédagogie, c'est le projet de l'autre, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas de projet pour qui que ce soit. Mon projet, c'est que l'autre s'accomplisse. Donc, ouvrir toutes les portes. Alors après, j'ai plein de techniques. J'ai une boîte à outils. Je vais ouvrir un maximum de portes. Puis tout d'un coup, ça va être cet endroit-là. Pour toi, ça a été l'improvisation. Et puis aussi, je me souviens très bien dans notre parcours, le fait de renoncer d'une certaine façon à passer par le classique, parce que tu étais au conservatoire à ce moment-là, tu essayais de chanter du Mozart et tout ça. Et quand je dis que tu essayais, c'est qu'en fait, ça n'était pas ta musique. Je me souviens très bien que tu es venu me voir en me chantant des chants italiens parce que tu avais fait toute une enquête et toute une recherche sur les chants traditionnels en Italie. Et quand j'ai entendu ta voix dans les chants italiens. De toute façon, quand je t'ai entendu improviser, j'ai perçu l'entièreté d'un être et d'une âme et d'un corps. Parce que c'est ça qu'on voit dans l'improvisation. Et moi, je peux dire que Violaine est une femme très puissante, avec une voix. Enfin, c'est pas que la voix, hein, c'est l'énergie, l'énergie qui te traverse, qui t'habite, qui t'emplit et que tu diffuses. Et la puissance, c'est pas. J'aime pas beaucoup l'expression femme puissante, machin, tout ça, l'empowerment et tout. Il faudrait trouver un nom français d'ailleurs. Bon.
Ouais. Empuissancement, mais empuissancement. C'est pas.
Bah oui, mais bon. Bon. Mais tu sais, autrice, tout le monde trouvait ça moche au début. Ouais, mais j'ai entendu plein de gens me dire ah non, mais pourquoi tu dis autrice, c'est moche. Puis maintenant, bah, donc empuissancement,
c'est ses capacités
mais,
d'agir.
Mais non, parce qu'en fait, c'est plutôt libérer la puissance et la puissance. Qui nous fait vivre, elle ne nous appartient pas. Je crois beaucoup qu'on travaille, et on travaille parfois dur, juste pour ouvrir les portes. Et quand on ouvre les portes du mental, de la sensibilité, de l'expression, de l'écoute, on est traversé. Et plus on est ouvert, et plus on est traversé. Mais ce qui nous traverse ne nous appartient pas. C'est la puissance de vie. C'est une puissance cosmique, on appelle ça comme on veut. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de nom, j'appelle ça ça. Voilà. Souvent, je dis, voilà, on cherche à amplifier ça à nous. Mais on est des antennes, on est des récepteurs, on est des médiateurs, on est des médiums. Et après, est-ce que c'est... il y a des moments où on va avoir l'impression que d'autres parlent en nous. Peut-être c'est des esprits, peut-être c'est la puissance de la nature. J'en en sais rien. Et quelque part, je ne veux pas le savoir parce que dès qu'on met des noms là-dessus, on s'enferme. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Et voilà, et moi, je cherche. Moi, j'ai vu ça en toi. Et bien sûr que ce n'était pas en allant prendre des cours au conservatoire ou en restant dans... Parce que les arts plastiques n'acceptaient pas forcément cet appel que tu avais par rapport à la voix comme outil d'expression artistique. Et moi, quand je te vois aujourd'hui, je suis très heureuse. Je me dis, youpi, bravo.
Bah, merci beaucoup.
Ah, oui.
Tu parlais de médium,
oui.
Et donc je ne sais pas si on peut aborder aussi cet aspect-là, parce que tu... donc moi, je me retrouve complètement dans ce que tu décris, hein, le fait qu'on ouvre des portes et qu'on devient antenne, comme une caisse de résonance de choses qui viennent nous traverser, et en effet, on ne sait pas toujours ce que c'est. Dans tes pratiques, parce que tu es magnétiseuse, Valérie. Et donc, comme on parle beaucoup de porosité, est-ce que tu serais d'accord pour faire un lien? Est-ce que tu vois des liens entre ta pratique de pédagogue, de chanteuse, d'improvisatrice, de compositrice et de magnétiseuse? Ou c'est une question anecdotique, je ne sais pas.
Et de soins
Oui, de soins.
Le soin, c'est une évidence parce que je le vois, c'est-à-dire quand j'enseigne, particulièrement quand j'enseigne. Quand je chante aussi, ça m'est arrivé d'avoir des retours de gens qui disaient que voilà, qu'il y a un bien-être, il y a une sensation. Bon, on sait que de toute façon, c'est pas moi, hein, c'est la voix en fait. La voix, quand elle est, c'est de la vibration. Et la vibration, ça active, ça met en mouvement les énergies. Donc, dès que les énergies circulent, on va mieux, on guérit éventuellement même. Bon, donc, ça, c'est pour moi, c'est un peu. C'est basique, quoi. C'est pas sorcier du tout. Hein. C'est simple, c'est concret, c'est réel pour moi. Après, le magnétisme, c'est une chose dont je parle depuis très peu, mais c'est une pratique tout à fait. Je me dis pas magnétiseuse parce que je pratique que dans le cercle privé. Je ne veux pas en faire un état, ni un métier, ni une activité. Voilà. Donc je magnétise très peu. Mais par contre, bon, voilà, j'ai découvert un jour que je pouvais barrer le feu, soigner des bobos, soulager des maux de tête avec l'imposition des mains. Mais j'ai souvent... Et donc, j'ai longtemps cherché le lien entre cette chose-là et le chant et l'enseignement et le fait que dans l'enseignement, là, pour le coup, parce que dans l'enseignement, je fais bouger les voix, je fais bouger les corps. Parfois, je touche. Et parfois, dans le toucher, je sens bien que finalement, là, le magnétisme, il s'active. Et simplement parce qu'un dos bloqué... On ne peut pas chanter avec un dos bloqué. Donc, je vais mettre la main juste pour montrer où est-ce que ça peut se remobiliser. Puis, en fait, en se remobilisant, il y a quelque chose qui bouge, qui parfois est profond. Donc, parfois, ça se transforme en soin. Mais la sensation que j'ai, c'est plutôt d'activer la capacité de la personne avec qui je travaille par ces différentes façons d'être en relation, dans l'idée que oui, on va chanter, voilà, et on va faire en sorte de chanter de façon de plus en plus libre, de plus en plus joyeuse, de plus en plus ouverte et peut-être de plus en plus puissante, mais là, sur le coup, de la puissance de, de l'énergie et de la présence, ça active la chose chez l'autre. Et le mimétisme joue beaucoup ensuite. Ça, je l'ai souvent remarqué. C'est-à-dire le fait d'être capable, moi, de ressentir un certain état de corps, un état d'ouverture que je travaille depuis longtemps à travers le chant, tout simplement. Il y a quelque chose qui passe, voilà. Tout ça est totalement empirique, hein, totalement empirique, et je n'ai pas été enseignée par rapport à ça. Et si je le transmets, je ne le considère pas comme de l'enseignement, parce que ça n'est pas ni théorisé, ni rien du tout, ça se fait.
Merci beaucoup. On va peut-être pouvoir écouter une de tes élèves.
Mais oui, parce que vous m'aviez proposé de faire découvrir un ou une autre vocaliste. Alors je réfléchissais à qui, peut-être quelqu'un qui m'a influencé. Bon, et puis en réfléchissant, je me suis dit non, j'ai vraiment envie de faire découvrir quelqu'un. Et il se trouve que au Théâtre National de Bretagne, au Théâtre National Bordeaux-Aquitaine où j'enseigne, parmi mes élèves, il y a une jeune femme qui écrit. Et voilà, et j'aime beaucoup son travail et j'avais envie. Elle s'appelle Marie de Dinechin. Et voilà, j'aime bien son travail et j'avais envie de le partager avec vous. Et elle est justement à cet endroit où elle travaille la parole. Elle écrit pour le théâtre. Hein. Elle travaille la parole et tout ce qui, toutes les scories qui peuvent se glisser dans la parole pour la faire. Je dirais que c'est une sorte d'émulsion qu'elle opère en fait. Voilà. Et c'est sa voix et c'est elle qui performe là.
Rah, je te regarde. Je te regarde depuis le début de la soirée et je te garde. Je te regarde et je te garde. Je te garde. Je te regarde quoi? Je te rara-re-regarde. Je te gaga-re-regarde. Je te rara-de-de-rade. Je te gaga-te-te-tarde. Je te rara, je te gaga, je te regarde-garde-garde-toi. Je te regarde oua, je te regarde ra, je te regarde ra, je te regarde toi. Je te regarde ra, je te regarde oua, je te regarde toi, je te regarde ra. Ra, je te garde. Ra, je te regarde. Ra, je te retarde. Ra, je t'arde. Je te re-ra-re-regarde, je te re-ra-re-regarde, je te re-ra-re-regarde et j'ai envie de ra. J'ai envie de ra, je veux ra, je veux ra, je veux ru, je te ra-re-re-ru, j'ai envie de ra, j'ai envie de ru. J'ai envie de ra, je veux parler avec re-toi. Re-toi-toi, 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 re-toi, re-toi. Ouah, ouah, c'est tes yeux, ouah, c'est quelque chose dans tes yeux, ra un trou, ou à un trou, ou à un trou bien profond, ouah, un trou, ouah, c'est un trou. Ouah, c'est un trou bien profond, ouah, ouais, un trou. Rah, moi, mes narines brûlent, rah, ouah, et t'as tes yeux, rah, toi, pourquoi tes yeux, on dirait que tout. Rah, moi, mes narines brûlent, rah, ouah, et t'as tes yeux, rah, toi, pourquoi tes yeux, tout a éteint. Rah, moi, mes narines brûlent, rah, ouah, et t'as tes yeux, rah, toi, pourquoi tes yeux, on dirait que tout a éteint à l'intérieur. Rah, ouais. Je sais pas, mais ouais. Je sais pas pourquoi, ouah, punaise, ré, ouah, ouah, ré, ouah, ouah, ra, ouais, ouais, je peux être ra, un peu ré, un peu bizarre parfois, mais ouais. Parfois ré et la ra, je sais pas, ouais, ra, je sais pas pourquoi, mais ouah, ouais, mais ouais, ouah. D'un coup, ça fait beaucoup de vent dans mes narines en une seule fois. Ouais, du vent, de la tempête, je suis fouettée, ouah, ça éteint le feu, mais ouais, ouah, mais ouah, ouais, et tout ce qui brûle à l'intérieur. Toi, t'as réussi à tout éteindre. Comment t'as fait, mec, pour tout éteindre? Tes narines sont gelées, et depuis plusieurs heures, j'ai envie de plonger dans ce vent, ton vent, là, immobile, qui éteint tout.
Et bien maintenant, ça va être quelque chose qui est exactement dans ce que j'ai envie, c'est d'entendre les voix de Violaine et Valérie qui vont nous improviser ce qui leur passe par la tête.
Tell your shot go. Tell your cat. Photo liac.
Ta gueule. Fatek nitekto.
Vrtek kopru. Raketek.
Fat liokru.
Ri.
Seoku.
C'était l'improvisation de Valérie Philippin et de Violaine Lochu pour Du Radio, juste pour nous. Alors, pour ce qui concerne l'agenda, on peut annoncer le 9 janvier 2025 le spectacle de fin de masterclass mis en scène par Valérie Philippin avec les élèves de l'école du Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, le 9 janvier 2025.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux, c'était un bonheur d'échanger avec vous.
À bientôt.